Le journal, c'est Sébastien Paour. Bonsoir Sébastien.
Bonsoir à tous. Le Congrès américain n'avait pas voté comme ça depuis Bill Clinton il y a plus de 20 ans. Une résolution pour des auditions publiques adoptées à la Chambre des représentants. Étape cruciale avant la procédure de destitution de Trump. Nous sommes à New York dès le début du journal. 23 mesures pour le 9-3, département hors normes, dit Édouard Philippe, vous l'entendrez. Et on s'arrête sur les moyens pour le tribunal de Bobigny. Au sommaire également ce soir, un nouveau chef à la tête du groupe État islamique, Laurent Binet, grand prix du roman de l'Académie, peut-être de l'escalade et du VTT en Haute-Savoie au JO de 2024. Et au téléphone sonne, Fabienne.
Eh bien, on parle d'intelligence artificielle ce soir. Est-ce que vous êtes prêt à un système de reconnaissance faciale pour ouvrir un site administratif? Ça commence à venir, hein, dans les aéroports, à la gare du Nord, quand vous allez à Londres, par exemple. L'idée, c'est de vous faciliter la vie, de fluidifier les démarches et les files d'attente. La CNIL est très attentive. Parfois, d'ailleurs, elle dit non et on y viendra. Bref, existe-t-il un vrai cadre éthique pour ça? 01 45 24 7000.
France Inter.
Ce n'est pas encore la procédure de destitution proprement dite, mais c'est un premier pas qui vient d'être franchi aux États-Unis. Après 5 semaines d'interrogatoires à huis clos sur l'affaire ukrainienne, ce coup de fil l'été dernier entre Trump et son homologue Zelensky, où le président américain lui demandait de se pencher sur son rival démocrate Joe Biden et sur les affaires de son fils en Ukraine. Premier vote au Congrès, aujourd'hui à la Chambre des représentants, à majorité démocrate. Bonsoir Loïc Loury.
Bonsoir.
232 voix contre 196, Loïc. Vote d'une résolution qui permet aux élus d'interroger publiquement les témoins de ce dossier ukrainien.
Oui, et cela, vous le disiez, après une douzaine d'auditions à huis clos qui ont passablement énervé les républicains. Donald Trump évoquait tout à l'heure la plus grande chasse aux sorcières de l'histoire. L'un des élus de son camp à la Chambre a lui brandi une pancarte avec un dessin du Kremlin et cette inscription 37 jours de procédure d'impeachment à la mode soviétique. Alors avec ce vote, le parti du président va enfin pouvoir participer à ces auditions. Il s'agissait de les calmer, de leur enlever aussi des munitions. Visiblement, cela n'a pas marché. Écoutez cet élu républicain suivi juste après de la réponse d'une démocrate.
Vous voulez savoir à quel point cette procédure est juste? Le texte nomme la commission des affaires financières comme partie prenante de l'enquête. Or, la présidente de cette même commission, ce mois-ci, a affirmé que Donald Trump devait être mis à l'isolement.
Les auditions seront publiques. Ils peuvent interroger les témoins, présenter des preuves. Notre constitution l'exige, notre démocratie en dépend.
Voilà, mais rien n'y fera, les républicains conservent leur ligne de conduite, à savoir se concentrer sur la procédure pour, selon les démocrates, ne pas avoir à affronter le fond de l'affaire. Pour l'instant, ils tiennent bon derrière Donald Trump, ils ont tous voté d'un seul bloc aujourd'hui à la Chambre, contrairement, c'est à souligner, aux démocrates, dont 2 élus ont fait défection.
Loïc Loury, merci, en direct de New York. Et vous l'avez dit, Loïc, Trump dénonce la plus grande chasse aux sorcières de l'histoire américaine. Tweet de circonstance le jour de la fête d'Halloween.
Les deux groupes actionnaires à 50-50.
L'italien John Elkann, président, le français Carlos Tavares, DG, le siège de la maison mère aux Pays-Bas. Voilà, résumé le mariage entre Fiat Chrysler et PSA. Mariage sans fermeture d'usine, disent les deux constructeurs qui regroupent une dizaine de marques. Paris et Rome seront vigilants sur ce dernier point. Le maintien de l'appareil industriel en France et en Italie. Ce qui coince, c'est le choix des Pays-Bas pour le siège. Les syndicats de PSA dénoncent tous ou presque la magouille fiscale. Bonsoir Pierre Benazet.
Bonsoir Sébastien.
Et de fait, le pays attire fiscalement.
Oui, même si pour certains, le choix d'installer le siège social de la future entité aurait l'avantage de mettre les deux groupes sur un pied d'égalité aux Pays-Bas, en terrain neutre en quelque sorte, loin de l'Italie, loin de la France, mais surtout effectivement, la fiscalité des Pays-Bas, elle est particulièrement attractive. Le nombre de multinationales qui y sont installées ne trompe pas. Fiat Chrysler y a d'ailleurs déjà son siège. Un choix identique a été fait par Renault-Nissan. Ces sociétés mères sont inscrites aux Pays-Bas comme BVBA, c'est-à-dire société à responsabilité limitée. C'est principalement dans les relations avec les filiales que les règles de taxation Bataves sont intéressantes pour les multinationales du fait de la possibilité de déduire les pertes des filiales étrangères au moment qui les arrange. Cette règle permet d'utiliser les pertes d'une année antérieure pour compenser une année très réussie et donc réduire très fortement ses impôts. Cette règle a été réformée en septembre. Les pertes ne peuvent plus être utilisées fiscalement que pendant 3 ans. Les Pays-Bas étaient dans le collimateur de la Commission européenne. Elle a multiplié les enquêtes sur les multinationales établies dans le Royaume, comme par exemple Starbucks ou Nike. Et le gouvernement néerlandais a voulu corriger son image de pôle d'optimisation fiscale qui passe mal désormais dans l'opinion publique.
Pierre Benazet en direct de Bruxelles, merci. Une fusion dans l'automobile, des fissures dans l'aérien sur les Boeing 737NG. Une quarantaine d'exemplaires sont immobilisés pour réparation. Nouveau coup dur pour l'avionneur américain dont le successeur du NG, le 737 Max, est interdit de vol depuis plus de 7 mois après 2 accidents mortels.
Une liste de 23 mesures, Sébastien, pour la Seine-Saint-Denis.
Et le Premier ministre est venu avec 6 ministres pour les annoncer. On retient cette prime de 10 000 euros pour fidéliser les fonctionnaires à condition de rester au moins 5 ans dans le département, le recrutement de 150 policiers et de 5 inspecteurs pour contrôler les logements insalubres. 10% de l'habitat est indigne en Seine-Saint-Denis. Une batterie de mesures pour un département à part. Édouard Philippe au micro de Laurence Perron.
La Seine-Saint-Denis est hors norme. Son histoire est hors norme. Le potentiel de la Seine-Saint-Denis est hors norme. Les difficultés de la Seine-Saint-Denis ou des populations qui y résident sont hors norme. Ces difficultés, il faut les nommer. La Seine-Saint-Denis, c'est un taux de pauvreté qui, avec 28,6%, est égal au double de la moyenne nationale. Plus de 60% des écoles du département font partie de l'enseignement prioritaire. Le département décroche, nous le savons, de tristes records dans le domaine de la santé, qu'il s'agisse des cas de saturnisme ou de mortalité infantile. Enfin, la Seine-Saint-Denis affiche le nombre de crimes et de délits pour 1000 habitants le plus important en France métropolitaine. Voilà les faits. Et pour reprendre un auteur célèbre, ils sont têtus. Les ignorer, les minorer, c'est fuir les responsabilités qui sont les nôtres. Notre objectif est effectivement de faire un État fort en Seine-Saint-Denis.
Voilà le constat, on a vu les mesures, voyons les réactions. Les élus de Seine-Saint-Denis sont mitigés, un début de reconnaissance pour certains, pas de réelle égalité pour d'autres, comme Gérard Combes, le président socialiste de Est Ensemble, qui regroupe 9 communes du département. Il est au micro d'Agera Mohamed.
J'attendais le Big Bang de l'égalité et j'ai entendu le saupoudrage des moyens. J'attendais vraiment des mesures beaucoup plus puissantes que cela. 200 policiers sur 4 ans, 50 par an. Sur le commissariat des Lilas, qui est une des circonscriptions de police, et, on a besoin de 8 effectifs. À Bondy, c'est 26 effectifs qui manquent, rien que sur 2 commissariats. Nous venons de vivre 2 drames, le suicide d'une directrice d'école à Pantin, l'assassinat d'un jeune autour d'un établissement scolaire sur bande de rivalité de quartier. J'ai le sentiment que le compte n'y est pas.
Alors on s'arrête maintenant sur les mesures en matière de justice, très chargées dans le département, extension du tribunal de Bobigny à l'horizon 2026, 180 000 affaires par an, mais l'un des moins bien dotés en personnel. Lors de Beaulieu, 35 postes de greffiers et 12 de magistrats seront créés.
S'il y a déjà eu des renforts de magistrats, le tribunal de Bobigny souffre cruellement d'un manque de greffiers. Ils sont 188, ils ne comptent plus leurs heures supplémentaires. Nicole Belloubet les a rencontrés ce matin dans les couloirs du palais.
Ils accompagnent des audiences qui se font tardivement, donc il y a un investissement dans la profession qui est énorme. Nous sommes engagés d'ores et déjà à affecter 18 greffiers supplémentaires au 1er janvier prochain et évidemment nous continuerons cet effort.
35 postes supplémentaires sont annoncés. Il faut dans un même temps inciter le personnel à rester à Bobigny. Les conditions de travail ne sont pas tenables, explique Lucie Delaporte, juge d'instruction depuis 3 ans.
J'ai rencontré des difficultés en termes de greffe et d'équipement qui m'ont un peu, pour dire le vrai, démoralisé et donné envie de changer de juridiction. Si vous travaillez dans des conditions qui sont difficile du point de vue matériel et administratif, il y a un moment où il est difficile de conserver la foi.
Améliorer les conditions de travail, cela passe aussi par des travaux. Un investissement de 35 millions d'euros est prévu pour rénover le palais.
Et vous trouverez d'autres détails, notamment sur la prime de 10 000 euros dont on parlait au début, sur franceinter.fr. Le gouvernement au chevet de la Seine-Saint-Denis et à l'écoute des syndicats de la SNCF, à un mois de la grève contre la réforme des retraites, CFDT et UNSA est reçu aujourd'hui par le haut-commissaire Jean-Paul Delevoye, qui fera des propositions, Raphaël Ebenstein, d'ici 3 semaines.
Des syndicats plutôt satisfaits à la sortie de leur réunion avec Jean-Paul Delevoye et Jean-Baptiste Djebari. Ils ont obtenu un calendrier très resserré de négociations avec la promesse de propositions qui leur seront faites au plus tard le 22 novembre. L'UNSA, comme la CFDT, sont notamment favorables à la clause dite du grand-père. Le fait que la réforme ne s'applique qu'aux nouveaux embauchés, pas aux cheminots actuels. Sur ce point, aucun engagement de leurs interlocuteurs ce matin. Et l'arbitrage devrait d'ailleurs venir directement de l'Élysée, estime le secrétaire général de la CFDT cheminots, Didier Aubert. Reste que le climat social particulièrement tendu au sein de la SNCF n'arrange pas les affaires de ces syndicats dits réformistes, dont une partie de la base semble prête à une grève illimitée à partir du 5 décembre, aux côtés de Sudrail et de la CGT, organisée organisations qui, elles, ont choisi de boycotter le rendez-vous d'aujourd'hui et la concertation proposée par le gouvernement.
Sur le front de la grève qui touche les TGV Atlantique, des débrayages aujourd'hui dans deux autres centres de maintenance, en plus de Châtillon, celui des TGV Sud-Est et celui de l'axe Nord avec les Eurostar et les Thalys. Une centaine de grévistes sur chacun des sites. Et dans les prochains jours, une demande de concertation immédiate nationale. Première étape pour les techniciens de tout le pays avant des négociations, voire une grève en cas d'échec. Quant au train des primeurs suspendu en juillet entre Perpignan et Rungis, il reprendra en décembre, même jusqu'à Valoton, à quelques kilomètres du marché. Annonce du secrétaire d'État au transport Jean-Baptiste Djebari. La reprise était prévue demain, mais elle est retardée à cause des intempéries dans le Languedoc qui ont endommagé la voie ferrée. Ce décret sur les plateformes de location temporaire au Journal officiel, les Airbnb, Le Bon Coin et autres Abritel, les communes pourront leur demander à partir de décembre et une fois par an une liste des logements loués par leur intermédiaire, notamment pour contrôler le nombre de jours où ils sont occupés.
Il est 19h presque 11. Sébastien, l'Espagne propose d'accueillir la COP 25.
Oui, Pedro Sanchez a appelé Sébastien Piñera, le président chilien, pour proposer Madrid à la place de Santiago. Le Chili a renoncé hier à cause de la crise sociale qui traverse le pays. Le groupe État islamique confirme la mort de son chef 4 jours après la mort d'Al-Baghdadi. Bonsoir Nathanaël Charbonnier.
Bonsoir.
Et il annonce, le groupe État islamique, le nom de son successeur.
Oui, il s'appelle Abu Ibrahim al-Hashemi al-Qurashi. Mais l'important, vous savez, n'est pas là. Il pourrait porter un tout autre nom. L'enjeu pour l'État islamique, c'est surtout de montrer que le roi est mort, vive le roi. En l'occurrence, le calife est mort, vive le calife. D'ailleurs, il est intéressant de noter que tout comme l'ancien calife al-Baghdadi, tué par les Américains, eh bien on retrouve le même patronyme chez les deux hommes, le vivant et le mort, à savoir al-Qurashi, ce qui veut dire de la tribu du prophète. Une façon de sous-entendre une certaine continuité dans la gestion de l'État islamique, même si pour l'heure, le nouveau élu reste très énigmatique, une sorte de fantôme qui devrait tout faire pour le rester, comme l'explique David Rigouleros, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique.
Il y a beaucoup d'interrogations. D'ailleurs, vous faites allusion au fantôme, c'était le surnom d'Al-Baghdadi, qu'on n'arrivait pas à suivre, parce qu'il avait fait de très très brèves apparitions vidéo. La première, lorsqu'il avait fait son sermon à Mossoul. Et donc, on peut penser qu'il en sera de même de son successeur, et d'autant plus qu'il devient une cible privilégiée. Il peut y avoir des leurres aussi, spécifiquement destinés justement à détourner l'attention de celui qui dirige vraiment.
Un fantôme qui compte en tout cas faire peur, parce que l'autre information du communiqué, eh bien c'est cet appel de l'État islamique à venger la mort de son ancien calife.
Merci Nathanaël Charbonnier. Le Premier ministre irakien prêt à partir si un remplaçant lui est trouvé. Le président promet aussi des élections anticipées après un mois de manifestations contre la corruption et la classe politique. La rue, notamment Place Tahrir à Bagdad, réclame toujours la chute du régime et reste mobilisée désormais jour et nuit. 3 semaines qu'elle avait disparu, une première patrouille américaine aujourd'hui dans le nord-est de la Syrie, près de la frontière turque. 5 blindés avec leur drapeau des États-Unis, alors que Washington veut quitter la région depuis l'offensive d'Ankara, région désormais contrôlée par Damas et son allié russe. Boris Johnson avait promis le Brexit aurait lieu aujourd'hui, 31 octobre. On en parlait dans le 18-20 tout à l'heure, Fabienne. Sauf que le feuilleton n'est pas terminé et voilà des milliers de pièces de monnaie commémoratives inutilisables. Elles vont être refondues, Antoine Gignot.
Les responsables du Trésor ne parlent pas de gâchis, mais de recyclage. Sur les 3 millions de pièces de 50 pence commandées il y a quelques mois par le ministre de l'Économie, quelques milliers seulement ont été fabriquées et frappées d'un sceau commémoratif avec le slogan « Paix, prospérité et amitié avec toutes les nations » suivi de la date 31 octobre 2019. Elles vont être fondues, disent-ils. L'alliage de cuivre et de nickel sera réutilisé pour commémorer le Brexit lorsqu'on saura précisément quand il aura lieu. Une formule prudente pour tenter d'éviter un nouveau fiasco. En mars dernier, le gouvernement avait déjà prévu de mettre en circulation une édition limitée de 10 000 pièces commémoratives. Elles aussi ont été détruites. Aucun détail sur le coût de l'opération. C'est une information commercialement sensible, commente sobrement le porte-parole du ministère de l'Économie, qui précise que les frais restent assumés par l'établissement de la monnaie royale sans aucun impact pour le contribuable. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Le bras de fer continue à Hong Kong entre militants pro-démocratie et pouvoir aux ordres de Pékin, avec des échauffourées pour cette célébration d'Halloween un peu particulière. Pas de citrouilles, mais des masques dans l'ancienne colonie britannique pour contourner l'interdiction de se cacher les visages. C'est le premier des prix littéraires de la saison, le Grand Prix du roman de l'Académie française, décerné à Laurent Binet, Ilana Moryoussef, pour Civilisation.
C'est un habitué des prix qui l'emporte, Laurent Binet, Goncourt du premier roman pour HHHH, prix interallié pour la 7e fonction du langage, et maintenant, grand prix du roman de l'Académie française pour Civilisation, avec un Z et au pluriel. Laurent Binet.
C'est ce qu'on appelle une uchronie ou une histoire contrefactuelle. J'imagine que dans les années 1530, les Incas, les Indiens envahissent l'Europe. Les Incas débarquent à Lisbonne et progressivement, l'empereur Atahualpa va prendre la place de Charles Quint.
On aurait pu croire que la très conservatrice Académie n'apprécierait pas ce renversement de perspective, mais il n'en est rien, assure le secrétaire perpétuel Hélène Carrère d'Encausse.
Je crois qu'il a séduit beaucoup de membres de l'Académie par la fantaisie qu'il y a dans son roman. On commence par croire qu'on a compris de quoi il s'agit, puis on saute sur un autre sujet. L'imagination a fonctionné jusqu'au bout.
Il faut dire aussi que les éditions Grasset disposent de puissants relais à l'intérieur de l'Académie. Un bon nombre d'académiciens étant publiés par cette maison, Laurent Binet leur rend la politesse.
Dans l'Académie française, je ne vois pas quelque chose de suranné. Je vois un temple de la francophonie avec à l'intérieur des Libanais, des Haïtiens, des Russes, des gens du monde entier qui viennent servir la langue française. Et je suis heureux qu'ils aient récompensé un roman qui déborde les frontières et qui s'étend au monde entier.
À l'Académie française, Gilles Gallinaro, Ilana Mor-Youssef, France Inter.
Et sinon, comment se vend le dernier Astérix, la fille de Vercingétorix, sorti il y a une semaine? Eh bien, comme les autres, très bien, déjà 600 000 exemplaires écoulés. L'album est traduit en 15 langues. Le sport, pour terminer, d'abord les Jeux Olympiques de Paris 2024. Le comité d'organisation réfléchit à plusieurs sites pour certaines épreuves. Après la voile à Marseille, le surf dans le sud-ouest et peut-être à Tahiti. L'escalade pourrait se faire en Haute-Savoie, 100 ans après les Jeux de Chamonix, mais aussi le VTT, Clément Comte.
C'est assez surprenant car le dossier VTT est déjà très avancé. Jusqu'à maintenant, il n'y avait qu'un nom, la colline d'Elancourt dans les Yvelines, avec beaucoup de promesses, selon Jean-Michel Fourgous, le maire de la commune.
Il y a un engagement qui a été clair, donc qui n'est pas à remettre en cause. Et en plus, c'est trop tard, les choses sont parties, les investissements sont partis. Je vous rappelle que tout ça est prêt pour les meilleures conditions de réussite pour toutes les équipes mondiales. Donc inutile de vous dire que moi je prends respect pour M. Stanguet, mais M. Stanguet doit clarifier sa position. Pour les JO, cet ensemble a joué un rôle très important, il ne faut pas l'oublier.
Difficile donc de changer les plans, selon Éric Jacoté, vice-président en charge du VTT à la Fédération Française de Cyclisme. Pour lui, Elancourt est l'endroit idéal.
Le fer de lance de ces JO, c'est le développement durable. Or, pour aller à Chamonix, faut y aller en voiture, on n'a pas d'autre solution. Alors que ici sur Elancourt, si on veut parler vraiment empreinte carbone et développement durable, on est bien placé et on a un réservoir de spectateurs potentiels qui est exponentiel par rapport à la région de Chamonix.
Le site VTT officiel pour ces Jeux 2024 devrait être annoncé d'ici la fin de l'année.
Le tennis à Bercy, tournoi Masters 1000, c'est comme ça qu'on dit. 3 balles de match pour Jérémy Chardy tout à l'heure, mais finalement la porte, le français, éliminé par le chilien Garin en 3-7. Et sur les cours, en ce moment, bonsoir Fanny Le Chevestrier.
Bonsoir Sébastien.
Joe Wilfried Tsonga face à l'allemand Struff et au service pour tenter de recoller.
Ah ouais, pression maximale hein, sur les épaules du Manceau puisque Yann Lennart Struff mène 6-2, 4-6, 6-5 et donc Joe Wilfried Tsonga au service pour tenter de rester dans la partie. On est vraiment dans le money time après déjà 2 heures de jeu. Il y a eu vraiment deux parties dans ce match. Un début de rencontre où Joe Wilfried Tsonga était complètement inexistant. Cela s'est traduit au score 6-2 le premier set pour l'allemand. Puis ensuite petit à petit il est revenu, il a lâché ses coups, il a mis vraiment de très très jolis coups d'ailleurs, mais je trouve s'accroche 36e joueur mondial et Tsonga pour l'instant qui mène 30-0 pour recoller à 6 partout dans cette partie qui tient vraiment en haleine le public de Bercy.
Merci Fanny Le Chevestrier et tout à l'heure mon fils jouera face au Moldave. Albot, pas de départ enfin comme prévu dimanche pour les 4 ultimes, les trimarans géants de 32 mètres de long, la course Brest-Atlantique renonce à s'élancer ce week-end à cause de la météo prévue à partir de demain soir, fort coup de vent, des creux de 8 mètres. Le parcours, c'est Brest, le Cap, Rio et retour à la pointe bretonne. Ça fait rêver.
Voilà, absolument. Je regarde les images, il a l'air grand, je trouve. Allez, merci beaucoup. À demain, dans un instant, c'est le téléphone sonne sur France Inter. Bonne soirée avec vous, même si le gris est mis.
La météo avec Région Job. Trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi avec Région Job.
Oh, rire, ça fait du bien. Jean-Pierre Hameau, temps agité pour les 3 jours à venir.
Eh oui, Fabien, il n'y aura pas de répit. Prévoyez un temps perturbé avec de la pluie ou un régime d'averse. Le vent sera aussi de la partie. Il sera même assez fort samedi le long des côtes de la Manche avec des rafales voisines de 100 km par heure. Et puis attention, les vents vont se renforcer nettement dans la nuit de samedi à dimanche et durant la journée de dimanche, en particulier des côtes de la Nouvelle-Aquitaine jusque vers l'Occitanie en passant par la région Midi-Pyrénées. Ils seront tempétueux avec des rafales dépassant largement la barre des 100 km par heure. Et puis avec ce flux d'ouest à sud-ouest, les températures seront un peu plus homogènes entre le nord et le sud, avec des maximales plutôt douces pour la saison.
Jean-Pierre Hameau de Météo France, merci Jean-Pierre.